Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous, En route et Caribou. Au programme, la suite de Comment préparer une année sabbatique ou un long voyage. Comment contrer le décalage horaire et bien dormir. Et les routes gourmandes du Québec en vrac. Bonne écoute.
Tiré de la revue Protégez-vous, écrit par Amélie Cléroux, le 19 avril 2023. Comment préparer une année sabbatique ou un long voyage? Les défis de laisser une voiture derrière. La pire situation pour un véhicule, c'est de rester immobile à ne rien faire pendant longtemps, indique d'entrée de jeu Jesse Caron, expert automobile à CAA Québec. Plus vous laissez votre voiture immobilisée longtemps, plus vous risquez d'avoir de mauvaises surprises pour ce qui est de la corrosion, de la mécanique, etc. Pour cette raison, et pour limiter les nombreux frais liés à la possession d'un véhicule, l'immatriculation, les assurances, l'entretien, voire l'entreposage, bon nombre de voyageurs, dont Vicky et son conjoint, s'en départissent. Or, cette option est à sous-peser avec précaution, estime Jesse Caron. La pénurie de véhicules actuels et l'incertitude quant aux prochaines années rendent la décision un peu plus difficile si l'acquisition d'une voiture est rapidement nécessaire une fois que vous êtes de retour. Il faut éviter une situation où vous vous sentiriez précipité d'acheter et où vous achèteriez un véhicule trop cher ou qui ne répond pas à nos besoins, souligne-t-il. Si vous décidez de conserver votre voiture, l'idéal serait que vous puissiez la prêter ou la louer à une personne de confiance qui l'utiliserait de temps à autre et qui s'occuperait de l'entretien de base pendant votre absence. Dans ce cas, vous devrez cependant aviser votre assureur et inscrire cette nouvelle personne sur la police d'assurance. Compte-t-elle utiliser la voiture plus ou moins que vous? Parlez-en avec elle et informez-en votre assureur. Aussi, si le véhicule est récent et surtout s'il est toujours sous garantie, il faut respecter le calendrier d'entretien, rappelle Jesse Caron. Une autre option, donner, par l'intermédiaire de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, votre véhicule à un membre de votre famille directe, accord entre particuliers liés, et faire la transaction inverse à votre retour. L'avantage ici est double. Vous évitez le paiement de la taxe de vente du Québec, TVQ, normalement nécessaire lors de la vente, ou du don d'un véhicule entre particuliers, et vous vous libérez de vos responsabilités pendant le prêt. Enfin, vous pourriez aussi remiser votre véhicule, ce qui implique son retrait temporaire de la circulation. Une assurance responsabilité civile, à tout le moins minimale, est toutefois nécessaire dans ce contexte. Quand le véhicule est remisé plus d'un an, il doit absolument réussir une inspection de la SAAQ par la suite pour retourner sur la route, poursuit Jesse Caron. Par ailleurs, voici un petit conseil en cas de remisage que donne l'expert automobile de CA Québec. Méfiez-vous des granges et des autres endroits non surveillés que fréquentent les rongeurs, car ceux-ci pourraient s'infiltrer dans le véhicule et y causer des dommages. Vous écoutez présentement « Comment préparer une année sabbatique ou un long voyage », un texte qui a été écrit par Amélie Cléroux le 19 avril 2023, tiré de la revue « Protégez-vous ». Les assurances voyage et la RAMQ. Prévoyez au minimum une assurance qui couvre les soins médicaux d'urgence à l'étranger pour éviter d'avoir à payer quoi que ce soit de votre poche en cas de problème de santé, qu'il s'agisse d'une simple otite ou d'un accident grave. Sans elle, ce sont aussi vos proches que vous mettrez dans une situation délicate s'il faut vous traiter d'urgence, voire s'il faut rapatrier votre corps, par exemple. Ayez d'ailleurs la certitude que le montant pour lequel vous êtes couvert est suffisant. Ce genre d'assurance propose habituellement des couvertures de quelques millions de dollars. Pour ce qui est des autres types d'assurance voyage, cela dépendra de votre tolérance au risque et de la nature de votre projet. En effet, un départ de longue durée improvisé en solo se veut bien différent d'un voyage familial organisé au quart de tour. L'assurance annulation vous permet d'annuler un voyage avant votre départ en cas d'urgence. De son côté, l'assurance interruption est en mesure de vous indemniser si un événement vous empêche de poursuivre votre voyage en cours. Les motifs d'interruption ou d'annulation pris en compte comprennent généralement un accident, un problème de santé ou le décès d'une des personnes qui voyagent. Ces couvertures pourraient se révéler particulièrement intéressantes si vous procédez à un grand nombre de transactions d'avance, vols, réservations d'hôtels, location de véhicules, croisières avec plusieurs arrêts, etc. Une assurance pour vous protéger contre la perte ou du vol des bagages est aussi à considérer. La couverture de la RAMQ. Est-il obligatoire d'être couvert par le régime de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, lorsque vous êtes à l'étranger? Non, mais plusieurs assureurs n'accepteront pas de vous couvrir sans lui, ou alors leurs primes seront plus élevées. En effet, le régime de la RAMQ couvre, par remboursement, un certain montant des frais médicaux rendus par un professionnel, comme un médecin, ou par un service hospitalier, même à l'extérieur de la province ou du Canada. Attention! Toutefois, ces montants risquent d'être nettement insuffisants pour couvrir toute la facture. De même, les médicaments achetés ailleurs qu'au Québec, même prescrits par un médecin, ne sont pas couverts. Pour être couvert par la RAMQ, vous devez être présent au Québec 183 jours ou plus pendant une année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Les séjours de 21 jours ou moins ne sont pas comptabilisés. Cependant, une fois tous les 7 ans, vous pouvez vous absenter du Québec toute une année civile sans perdre votre admissibilité. Il vous faut alors en faire la demande auprès de la RAMQ. Imaginons que vous partiez 2 ans. En jouant le calendrier à votre avantage, vous pourriez demeurer admissible à la couverture de la RAMQ. Voici un exemple. Du 2 juillet au 31 décembre 2023, 182 jours d'absence, le jour du départ n'est pas comptabilisé. Du 1er janvier au 31 décembre 2024, année septennale, et du 1er janvier au 2 juillet 2025, 182 jours d'absence, le jour du retour n'est pas comptabilisé. Important? Dans cet exemple, vous ne devez pas quitter la province plus de 21 jours pour le reste de l'année 2025, ni l'avoir fait précédemment en 2023. À supposer que vous soyez dans un autre pays plus de 2 ans, vous perdrez nécessairement votre couverture de la RAMQ, ce qui n'est pas dramatique. Votre couverture santé privée devra toutefois vous protéger entièrement à l'étranger, mais aussi si vous venez visiter vos proches au Québec. Et bien sûr, en tant que citoyen ou résident permanent, vous pourrez vous réinscrire au régime d'assurance maladie du Québec et au régime public d'assurance médicaments aux besoins. Votre inscription sera normalement traitée au bout de 3 mois. Il est nécessaire d'être en sol québécois pour entamer les démarches de réinscription, précise Caroline Dupont, porte-parole média de la RAMQ. Assurez-vous également de respecter les contraintes pour l'année civile en cours. Aperçu des différents visas. Si votre projet implique de demeurer un long moment dans un pays, un visa de touriste, souvent pour 30 ou 60 jours au maximum, ne sera peut-être pas suffisant, surtout si vous souhaitez y travailler. Il existe plusieurs types de visas. Le visa de travail, que vous obtiendrez en règle générale si vous êtes recruté par une entreprise du pays. Le visa vacances-travail, aussi appelé PVT, pour permis vacances-travail, destiné aux Canadiens de 35 ans et moins. Si vous y êtes admissible par votre âge, il vous permet d'explorer un pays partenaire du programme, près d'une vingtaine, pour une durée de 6 mois à 1 an, avec la possibilité de le renouveler une fois ou deux, de faire le touriste et de travailler sur place du même coup si l'envie vous prend. Le visa pour télétravailleurs, aussi appelé en anglais « Digital Nomad Visa » ou « Remote Work Visa », qui est apparu dans les dernières années. De façon générale, il permet aux salariés d'une entreprise étrangère, aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants de travailler à temps plein dans le pays visité pour une durée variant de quelques mois à 2 ans selon l'endroit. Il y a souvent des conditions, par exemple un revenu mensuel minimal avec preuve, l'absence d'un casier judiciaire ou une preuve d'emploi. Voici quelques destinations qui offrent un tel programme. Bermudes, Croatie, Portugal, Islande. Des vérifications nécessaires. Si vous considérez faire du télétravail dans un autre pays, que ce soit comme travailleur autonome ou comme salarié d'une entreprise canadienne, informez-vous bien sur les différentes contraintes. 1. Assurez-vous de pouvoir le faire avec votre employeur et ou les autorités locales. 2. Sachez ce que cela implique du point de vue de la fiscalité et de la sécurité sociale. Êtes-vous toujours résident fiscal au Canada? Devez-vous payer des impôts dans le pays d'accueil? Votre visa permet-il une entente particulière? Vous pouvez avoir des revenus de sources étrangères ou de sources canadiennes et potentiellement vous retrouver à devoir payer la fiscalité dans le pays où vous vous êtes temporairement installé, mais aussi à être imposé au Canada, illustre Jérôme Dostie-Bourgault, avocat fiscaliste chez Desjardins. De manière générale, plus vous restez longtemps dans le pays d'accueil, plus vous risquez d'être considéré comme un résident fiscal. De même, il faut possiblement vous attendre à un revenu minimal à partir duquel vous aurez à payer des impôts, par exemple. Jérôme Dostie-Bourgault rappelle que chaque pays a ses propres règles pour déterminer la résidence fiscale et les obligations des télétravailleurs. S'il existe une entente entre le pays en question et le Canada, vous pourriez avoir droit à des crédits d'impôt au Canada pour éviter la double imposition, entre autres exemples. Un bon point de départ? Visitez le site Web du gouvernement de votre pays d'accueil et celui du Canada sur les conventions fiscales. Au besoin, discutez-en avec un professionnel comme un fiscaliste spécialisé en fiscalité internationale. L'éducation des enfants. Plusieurs parents choisissent de faire l'école à la maison, sur la route, afin de ne pas ralentir la progression de leurs enfants. Pour ce faire, vous devez transmettre un avis écrit à la direction de l'enseignement à la maison du ministère de l'Éducation et à votre centre de services scolaires au plus tard le 1er juillet en vue de l'année scolaire suivante ou dans les 10 jours qui précèdent la date d'arrêt si c'est en cours d'année scolaire. Vous aurez aussi à présenter un projet d'apprentissage au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours. Pour plus d'informations, consultez la page du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec et celle de votre centre de services scolaires. Écrivez-leur pour discuter de votre cas précis. Le ministère a notamment conçu un guide d'accompagnement qui sera en mesure de vous outiller. D'autres ressources, comme le site Internet d'AlloProf et ses sections pour élèves, parents ou enseignants, pourront aussi vous aider à naviguer à travers vos nouvelles responsabilités. Quelques ressources supplémentaires. Voyage.qc.ca. Outre la section Conseil aux voyageurs et avertissements par destination, le site Web du gouvernement fédéral propose un grand nombre d'informations aux voyageurs. Inscrivez-vous aussi à son registre avant votre départ. Ce service permet au gouvernement de vous aviser en cas d'urgence à l'étranger ou à la maison et de faire en sorte que vous receviez des renseignements importants avant ou pendant une catastrophe naturelle ou des troubles civils. Tourdumondiste.com. Ce site web français ne sera pas toujours approprié pour tout ce qui concerne la paperasse canadienne et québécoise, et il ne remplace pas les sources officielles, mais vous y trouverez beaucoup d'informations pour vous aider à planifier votre projet. Inspiration garantie. Nomadlist.com, en anglais. Ce site Internet regroupe les avis de voyageurs à long terme. Il se révèle intéressant si vous voulez avoir un aperçu de la situation par pays en fonction de vos besoins. Par exemple, une bonne connexion Internet. Un abonnement payant au site vous permet d'obtenir plus d'informations. C'était donc Comment préparer une année sabbatique ou un long voyage? Texte écrit par Amélie Cléroux, 19 avril 2023, tiré de la revue Protégez-vous.
Comment contrer le décalage horaire et bien dormir? Un texte du Dr Jim Chung, paru le 23 février 2022 dans le magazine En route. L'experte du sommeil, Céline Bastien, prodigue ses conseils pour mieux dormir, peu importe l'endroit. Que vous soyez du genre à vous endormir n'importe où, ou à avoir besoin d'une routine pour faire dodo, trouver un sommeil régulier et de qualité hors de chez soi est un défi pour bien des voyageurs. Certains souffrent du décalage horaire et de troubles du sommeil en voyage, mais on peut agir afin de mieux se reposer en déplacement, affirme Céline Bastien, présidente de la Société canadienne du sommeil et professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval à Québec. Le Dr Jim Chung s'est entretenu avec la professeure Bastien de la perturbation de notre horloge interne quand on change de fuseau horaire, de l'importance des habitudes de sommeil et de la façon d'aider les enfants à rester bien reposés lors d'une escapade familiale pendant la semaine de relâche. Quel effet ont les changements d'heure sur notre rythme circadien? Notre corps fonctionne selon un horaire et est habitué à se lever à une certaine heure, à manger à intervalles précis et à s'endormir à telle heure. Lorsque nous traversons des fuseaux horaires, il perd ses repères habituels du cycle jour-nuit. Au moment du coucher, il peut avoir l'impression que c'est l'heure du souper, ce qui peut entraîner qu'on se couche trop tard, qu'on mange à des heures indues et qu'on se sente plus fatigué que d'habitude. Les recherches montrent aussi que plus nous traversons de fuseaux horaires, plus notre système devient confus et donc un trajet de Toronto à Londres peut être particulièrement épuisant. Quels sont les principaux effets du décalage horaire et les meilleures façons de les atténuer? Le décalage horaire peut provoquer divers symptômes, somnolence diurne, difficulté à s'endormir ou à rester endormi la nuit, irritabilité et troubles gastro-intestinaux. Pour remettre votre système sur pied, exposez votre corps à la lumière du jour, restez éveillé pendant la journée et mangez au moment qui convienne à l'endroit où vous êtes. En gros, faites comme les gens autour de vous. Si vous atterrissez le matin, essayez de déjeuner. Ça vous aidera à réajuster votre horloge interne. Que faire pour annuler l'effet de la première nuit, cette tendance à mal dormir la première nuit dans un nouvel endroit? À l'hôtel, on ne dispose pas des repères de sommeil sur lesquels on s'appuie avant de se coucher à la maison. Mais nous perturbons aussi nos habitudes de sommeil en mangeant plus tard, parfois dans la chambre, ou en consommant davantage d'alcool. Suivez une routine de sommeil aussi proche que possible de celle que vous avez chez vous, même la première nuit. Il pourrait s'agir de prendre votre bain habituel, de lire un livre ou de porter votre pyjama préféré. Par contre, les insomniaques chroniques ont tendance à bénéficier du changement des repères de sommeil. Ils ressentent un effet de la première nuit inversé et dorment mieux. Les troubles du sommeil liés au voyage peuvent être encore plus intenses chez les enfants. Que conseillez-vous pour aider ceux-ci à bien dormir en voyage? Les enfants sont très sensibles au décalage horaire, à la fatigue du voyage et à l'effet de la première nuit. À l'arrivée, faites une sieste, pas plus d'une heure, pour refaire le plein. Puis, trouvez une aire de jeu pour qu'ils se dégourdissent les jambes. Enfin, veillez à les coucher à l'heure habituelle, avec leur jouet préféré de la maison. C'était « Comment contrer le décalage horaire et bien dormir », un texte du Dr. Jim Chung, paru le 23 février 2022 dans le magazine En route.
Les routes gourmandes du Québec en vrac. Un texte de Sophie Médiavilla-Rivard, paru le 27 mai 2023 dans la revue Caribou. On entend souvent parler de routes gourmandes, mais que sont-elles exactement? Que visent-elles? Et combien peut-on en trouver à travers la province? Suivez le guide. C'est quoi les routes gourmandes? Selon l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec, le tourisme gourmand est la découverte d'un territoire à travers des expériences culinaires distinctives, des activités agrotouristiques ou bioalimentaires mettant en valeur le savoir-faire de ses artisans et permettant d'apprécier les produits ou les plats qui lui sont propres. Les routes gourmandes s'inscrivent dans cette démarche. Ce sont des itinéraires qui permettent de voyager d'un point à un autre en profitant à chacun des arrêts de saveurs locales. S'offrent alors aux visiteurs une multitude de produits et d'expériences, alcool, fromage, activités agrotouristiques, autocueillettes, dégustations, produits inusités, repas, nuitées à la ferme et bien plus. Un code de la route gourmande? Au Québec, il n'y a ni réglementation pour régir les routes gourmandes, ni critères provinciaux à respecter pour en garantir la qualité. Certaines sont gérées par les offices de tourisme des municipalités et des régions qu'elles traversent, alors que d'autres sont indépendantes. Le concept est en évolution. Depuis 2022, l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec a entrepris un recensement pour bonifier, structurer et mettre en valeur l'expérience offerte par les routes et les circuits gourmands. L'association a aussi mis au point une démarche comportant des normes à respecter afin de garantir la qualité et l'homogénéité de l'expérience offerte aux voyageurs qui empruntent les circuits participants. 24, c'est le nombre de circuits gourmands importants que compte le Québec, d'après l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec. L'organisme gouvernemental précise toutefois que cette liste n'est pas exhaustive. Elle n'inclut pas les itinéraires promotionnels mis en place par les organismes touristiques pour mettre en valeur leur territoire. En vérité, on estime qu'il y a plus d'une quarantaine de routes gourmandes québécoises qui ont été mises sur pied localement, de façon indépendante ou qui ont bénéficié d'un appui provincial ou régional. 1995, c'est l'année de la création de la route des saveurs de Charlevoix, première en son genre au Québec. Ce circuit agrotouristique entre fleuves et montagnes contribue à la réputation gourmande du coin depuis bientôt 30 ans. Trajet désaltérant. De nombreuses routes gourmandes ont été conçues spécialement pour étancher la soif des voyageurs. La route des vins de Brome-Missisquoi, la route des bières de l'Est du Québec, la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la route des brasseurs des cantons de l'Est, la route des distilleries du Québec, Alouette. 20-20. La route des vins de Brome-Missisquoi célèbre en 2023 son 20e anniversaire. Fondée en 2003, ce parcours sillonne 22 vignobles de l'Estrie et propose 6 circuits pour les visiter en fonction des préférences personnelles des amateurs, été comme hiver. Manger en pédalant. Il n'y a pas qu'en voiture qu'on puisse explorer les régions pour découvrir de nouvelles saveurs québécoises. La Véloroute gourmande est un parcours de 235 km reliant Montréal et Sherbrooke, qui est jalonné de quelques 120 attraits gourmands. D'autres options? La Véloroute des Bleuets, qui fait le tour du lac Saint-Jean, propose un tour thématique des microbrasseries de cette région. Vélo Popote propose de pédaler d'un arrêt gourmand des Basses-Laurentides à un autre. Et Tourisme Lanaudière a concocté un savoureux itinéraire de 75 km à parcourir sur deux roues. 11. Selon l'Association de l'agrotourisme et de tourisme gourmand du Québec, les principaux circuits gourmands structurés au Québec sont dispersés dans 11 régions administratives. Le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, le centre du Québec, la capitale nationale, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie, l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était « Les routes gourmandes du Québec en vrac », un texte de Sophie Midiavilla-Rivard paru le 27 mai 2023 dans la revue Caribou.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin, Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.